Histoire du chef de bandit. Je naquis au village de Procédé. Mon père jouissait d'une heureuse aisance et nous vivions indépendants et tranquilles, occupés de la culture de nos champs. Tout alla fort bien chez nous jusqu'à ce que l'on envoya un nouveau chef des sbires dans notre village pour être à la tête de la police. Il était d'un caractère despotique, se mêlant des affaires de tout le monde et se permettant toute espèce de vexation et d'actes de tyrannie dans l'exercice de sa charge. J'avais à cette époque 18 ans, et j'étais naturellement porté à la justice et la concorde. J'avais reçu aussi quelque éducation, ce qui me mettait en état de juger un peu les hommes et leurs actions. Tout cela m'inspira de la haine pour ce vil despote. Ma famille était devenue l'objet de ses soupçons ou de son aversion, et nous avions souffert plus d'une fois de l'arbitraire de son pouvoir. Toutes ces causes irritaient mon âme et j'aspirais à la vengeance. Mon caractère fut toujours ardent, impétueux, et, emporté par mon amour pour la justice, je résolus d'affranchir mon pays de ce tyran d'un seul coup. Plein de mon projet, je me levai avant l'aurore, et, cachant sous mes habits un stylet, le voici, et il me montra un long poignard affilé. J'allai l'attendre à l'entrée du village. Je connaissais les endroits qu'il fréquentait. Je savais qu'il avait coutume de faire sa ronde et de rôder comme un loup au point du jour. Enfin, je le rencontrai et l'attaquai avec fureur. Il était armé, mais je l'avais pris à l'improviste, et j'étais plein de jeunesse et de vigueur. Je le perçai de coups redoublés pour être sûr de mon fait, et je l'étendis sans vie à mes pieds. Lorsque je fus bien sûr de l'avoir expédié, je me hâtai de retourner au village, mais j'eus le malheur de rencontrer deux des sbires qui m'abordèrent en me demandant si j'avais vu leur chef. J'affectai un air tranquille et je leur répondis que non. Ils continuèrent leur chemin, et peu d'heures après, ils rapportèrent le cadavre à Procédé. Leurs soupçons s'étaient déjà fixés sur moi. Je fus arrêté et mené en prison. Je m'y trouvais depuis plusieurs semaines, quand le prince, qui était seigneur de Procédé, fit instruire un procès contre moi. Je fus mis en jugement, et l'on produisit un témoin qui déposa m'avoir vu fuir, avec précipitation, non loin du cadavre sanglant. Je fus condamné à 30 années de galère. Maudite soit de telles lois, maudit soit un tel gouvernement, et maudit soit 10 000 fois le prince qui fut cause que l'on me jugea si rigoureusement, tandis que tant d'autres princes romains accueillent et protègent des assassins 1 000 fois plus coupables. Qu'ai-je fait qui ne me fut inspiré par l'amour de la justice et de mon pays? En quoi mon action est-elle plus coupable que celle de Brutus lorsqu'il sacrifia César à la cause de la liberté et de la justice? Il y avait quelque chose de sublime et de burlesque à la fois dans cette sortie du brigand, qui s'assimilait à un des plus grands hommes de l'Antiquité. Elle montrait du reste qu'il avait au moins le mérite de connaître les faits les plus remarquables de l'histoire de son pays. Il devint plus calme et reprit son récit. Je fus conduit, chargé de fer, à Civita Vecchia. Mon cœur bouillonnait de rage. J'étais marié depuis 6 mois à une femme que j'aimais passionnément et qui était enceinte. Ma famille était au désespoir. Pendant longtemps, je fis d'inutiles efforts pour briser ma chaîne. Enfin, je trouvai un morceau de fer que je cachai avec soin. Et, au moyen d'un caillou tranchant, j'essayai de le façonner pour me servir de lime. Je passai les nuits à ce travail. Dès qu'il fut terminé, je parvins, après les efforts multipliés, à couper un des anneaux de ma chaîne. Ma fuite fut heureuse. J'errai pendant plusieurs semaines dans les montagnes qui environnent Procédé, et je trouvai le moyen d'informer ma femme de l'endroit où j'étais caché. Elle vint me voir souvent. J'avais résolu de me mettre à la tête d'une bande armée. Elle chercha longtemps à me détourner de ce projet, mais, voyant que j'étais inébranlable, elle s'unit enfin à mes desseins de vengeance et m'apporta elle-même mon poignard. Par son entremise, je communiquai avec quelques braves gens des villages d'alentour que je savais disposés à se rendre en montagne et qui n'attendaient que le moment favorable pour exercer leur audacieux génie. Notre réunion s'opéra bientôt. Nous nous procurâmes des armes et nous eûmes de fréquentes occasions de venger les injustices et les outrages que plusieurs d'entre nous avaient essuyés. Toutes nos entreprises nous ont réussi jusqu'à présent. Et sans la méprise qui vous a fait emmener à la place du prince, notre fortune à tous aurait été faite. Ici, le brigand termina son histoire. Il était devenu tout à fait amical, et il m'assura qu'il ne m'en voulait plus pour l'erreur dont j'avais été la cause innocente. Il me témoigna même une sorte d'affection, et me pria de rester quelque temps avec lui. Il me promettait de me montrer certaines grottes que ses camarades et lui occupaient au-delà de Velletli, et où ils se retiraient dans l'intervalle de leurs expéditions. Ils y menaient, disait-il, une vie très joyeuse, dans l'abondance et la bonne chère. Ils reposaient sur des lits de mousse, et se faisaient servir par de jeunes et jolies femmes que je pourrais prendre pour modèles. J'avoue que je sentis ma curiosité excitée par la description de ces grottes et de la manière d'être de leurs habitants. Elle réalisait les scènes qui se trouvent dans les histoires de brigands et que j'avais regardées comme les fruits de l'imagination. Aussi, j'aurais accepté volontiers l'invitation, je me serais décidé à visiter ces cavernes si je m'étais senti plus en sûreté dans cette société. Je commençais à trouver cependant ma situation moins pénible. Je m'étais évidemment insinué dans les bonnes grâces du chef et j'espérais qu'il me laisserait aller moyennant une rançon modérée. Une nouvelle alerte m'alarma bientôt. Tandis que le capitaine guettait avec impatience le retour du messager qui avait été envoyé au prince, la sentinelle postée sur le côté de la montagne, en face de la plaine de la Morlala, accourut à nous avec précipitation. « Nous sommes trahis !» s'écria-t-il. « La police de Frascati est sur nos traces. Une troupe de carabiniers vient de s'arrêter à l'auberge qui est au pied de la montagne. » Alors, portant la main à son stylet, il jura, par un serment terrible, que si les carabiniers faisaient le moindre mouvement vers les montagnes, ma vie et celle de mes compagnons d'infortune en répondraient. Le capitaine reprit toute la férocité de sa physionomie et il approuva ce que venait de dire son camarade. Mais, quand celui-ci fut retourné à son poste, le chef me parla d'un air un peu radouci. « Je dois agir comme capitaine, me dit-il, et satisfaire mes dangereux subalternes. C'est parmi nous une loi de tuer nos prisonniers plutôt que de souffrir qu'on les délivre. Mais ne vous en embarrassez pas. Si nous sommes surpris, tenez-vous près de moi. Fuyez avec nous et je me regarderai comme responsable de votre vie. » Il n'y avait rien de fort consolant dans cette disposition qui me plaçait entre deux dangers. En cas de fuite, je ne savais ce que je devais redouter le plus, ou les carabines des poursuivants, ou les stylets des poursuivis. Je gardais cependant le silence et tâchais de conserver un air tranquille. Près d'une heure passa dans cet état de péril et d'anxiété. Les brigands, tapis dans leurs cachettes de feuillage, observaient avec le regard de l'aigle les carabiniers qui rôdaient à l'entour de l'auberge. Ceux-ci s'arrêtaient sur le seuil de la porte. Tantôt, ils disparaissaient pendant quelques minutes, puis ils revenaient. Ils examinaient leurs armes, désignaient plusieurs directions et paraissaient poser des questions sur les environs. Pas un mouvement, pas un geste n'échappait à l'œil perçant des bandits. À la fin, nous fûmes délivrés de nos craintes. Les carabiniers, après s'être rafraîchis, reprirent leurs armes, continuèrent de suivre la vallée vers la grande route et laissèrent bientôt les montagnes derrière eux. « J'étais presque sûr, dit le capitaine, qu'ils n'étaient pas envoyés contre nous. « On sait trop bien comment nous traitons les prisonniers en pareilles occasions. Nos lois à cet égard sont inflexibles. Elles sont nécessaires à notre sûreté. Si nous nous en relâchions, il n'y aurait plus aucun moyen de tirer de nos prisonniers quelque chose qui ressemblât à une rançon. » Rien n'annonçait encore le retour du messager. Je me disposais à reprendre mes dessins lorsque le capitaine tira un cahier de papier de son bissac. « Allons, me dit-il en riant, vous êtes peintre, faites mon portrait. Les feuillets de votre carton sont trop petits. Dessinez-le sur une de ces feuilles. » J'y consentis volontiers car c'était une étude qui se présente rarement à un peintre. Je me rappelais que Salvatore Rosa, dans sa jeunesse, avait passé volontairement quelques jours parmi les bandits de la Calabre et qu'il avait nourri son imagination de toutes les scènes sauvages et de toutes les figures farouches dont il s'était entouré. À cette pensée, je saisis mes crayons avec enthousiasme. Je trouvais dans le capitaine le plus docile des modèles. Et après plusieurs changements de pose, je le plaçai dans l'attitude qui me plaisait le mieux. Figurez-vous un homme robuste et d'une physionomie austère, revêtu d'un costume fantasque de bandit. Des pistolets et des poignards à la ceinture, le col nu et musculeux, entouré d'un simple mouchoir noué négligemment, aux deux bouts duquel sont enfilées des bagues de tout genre, dépouilles des voyageurs, des reliques et des médailles antiques suspendues sur la poitrine, son chapeau orné de rubans de diverses couleurs, sa veste et ses culottes courtes, en étoffe éclatante et richement brodée, les jambes chaussées de bottines ou de sandales. Figurez-vous cet homme, placé sur le sommet d'une montagne, au milieu de noirs rochers et de chênes imposants, appuyé sur sa carabine, comme s'il méditait quelque expédition, tandis qu'au-dessous de lui se déploient les châteaux et les villages, théâtre de ses exploits, et que la vaste campagne de Rome projette jusqu'aux bornes de l'horizon ses ombres lointaines. Le brigand s'était amusé à me voir tracer cette esquisse. Il semblait s'admirer sur le papier. Je venais de finir quand revint l'ouvrier qu'on avait envoyé chercher ma rançon. Il était arrivé à Tusculum 2 heures après minuit. Il m'apportait une lettre du prince qu'il avait trouvée au lit. Comme je l'avais prédit, la demande avait paru extravagante et le prince offrait $500 pour me racheter. N'ayant pas tant d'argent pour le moment, il envoyait un billet de cette somme, payable à celui qui me ramènerait sain et sauf à Rome. Je remis cette promesse au chef. Il la reçut en haussant les épaules. « À quoi peuvent nous servir les billets » dit-il. « Qui pouvons-nous envoyer à Rome avec vous pour en toucher le montant ?» Nous sommes tous connus. Notre signalement est affiché à chaque porte de la ville, à chaque poste militaire, au mur de chaque église. Non, il nous faut de l'or ou de l'argent. Que la somme soit payée en écus et vous serez libre. » Le capitaine plaça de nouveau un papier devant moi pour que je communiquasse la décision au prince. Quand je finis la lettre et que je voulus ôter la feuille du cahier, je trouvai sur l'autre côté le portrait que j'avais dessiné. J'allai le détacher et le donner au capitaine. « Arrêtez, me dit-il, laissez-le, qu'il aille à Rome. Ils verront quelle est ma mine et je n'en suis pas fâché. Peut-être que, d'après ma physionomie, le prince et ses amis se formeront de moi une aussi bonne opinion que la vôtre. » C'était une plaisanterie, mais il y avait évidemment de la vanité au fond de cette idée. Le capitaine de voleurs, si défiant, si circonspect, oubliait pour un moment sa prudence et sa prévoyance ordinaire pour satisfaire un désir puéril d'être admiré. Il ne réfléchit point à l'usage que l'on pouvait faire de ce portrait dans des recherches et comme pièce à conviction. La lettre placée, j'y mis l'adresse et le messager repartit encore une fois pour Tusculum. Il était déjà 11 heures du matin et nous n'avions encore rien mangé. Malgré toute mon inquiétude, je commençais à sentir un violent appétit. Je fus donc bien aise d'entendre le capitaine parler de repas. Il observa qu'ils avaient passé 3 jours et 3 nuits au milieu des rochers et des forêts à méditer leur expédition de Tusculum et que pendant ce temps, ils avaient épuisé toutes leurs provisions. Il allait donc prendre des mesures pour se procurer des vivres. Il me remit à la garde de son camarade qui semblait lui inspirer une confiance sans bornes et partit en m'assurant qu'en moins de 2 heures, nous ferions un très bon dîner. D'où ce dîner arriverait, c'était là une énigme pour moi, quoiqu'il fût évident que ces bandits avaient des amis et des agents secrets dans tout le pays. En effet, les habitants de ces montagnes et des vallées qu'elles renferment sont des hommes rudes et à peine civilisés. Les villes et villages des forêts des Abruzzes, séparés du reste du monde, ressemblent presque à des antres sauvages. Il est étonnant que des contrées si barbares, si peu connues et si peu visitées, se trouvent au sein d'un des pays les plus civilisés de l'Europe et qui attirent un si grand nombre de voyageurs. Les voleurs restent en sûreté dans ces régions. Pas un montagnard n'hésite à leur donner un asile et des secours. Les bergers qui font paître leurs troupeaux sur les montagnes sont même les émissaires favoris des brigands lorsqu'on a besoin d'envoyer des messages dans la vallée pour demander des rançons ou des vivres. Les bergers des Abruzzes sont aussi sauvages que le pays qu'ils habitent. Ils sont vêtus d'une peau de mouton noir ou brune, jetée grossièrement sur leurs épaules. Ils portent sur la tête de grands chapeaux en forme de cône, et des sandales de toile sont attachées à leurs pieds par des courroies semblables à celles dont se servent les voleurs. Ils traînent avec eux de longs bâtons. Quand ils s'appuient dessus, ils forment des tableaux très bizarres, au milieu de ce paysage solitaire, toujours accompagnés de leur fidèle compagnon le chien. Ils sont d'un naturel questionneur, fort aise de charmer la monotonie de leur solitude par la conversation du passant. Le chien prête, comme eux, une oreille attentive, et jette sur vous un regard aussi fin et aussi curieux que celui de son maître. Mais j'en reviens à mon histoire. J'avais donc été laissé seul avec l'un des voleurs, l'ami et le confident du capitaine. Il était jeune, et le plus vigoureux de toute la troupe, et, quoique sa physionomie présentât quelques traces de cette insolence farouche qui semble naturelle à un pareil genre de vie, on y découvrait encore quelques traits d'une beauté mâle. En qualité d'artiste, je ne pus m'empêcher de l'admirer. J'avais remarqué en lui un air distrait et rêveur, et un mouvement d'inquiétude, signe d'une souffrance intérieure. Il était assis par terre, à côté de moi, ses coudes appuyés sur ses genoux, sa tête enfoncée entre ses poings fermés, ses yeux fixés vers la terre, et, sur sa figure pensive, se peignait l'expression de la tristesse et de l'amertume. Différentes conversations antérieures m'avaient rendu familier avec lui, et j'avais trouvé son esprit supérieur à celui du reste de la troupe. Je désirais saisir l'occasion d'approfondir les sentiments de ces êtres singuliers. Il me semblait lire sur la physionomie de mon gardien quelque chose qui ressemblait au remords. Et la facilité avec laquelle j'avais obtenu la confiance du capitaine m'encouragea à rechercher celle de son ami. Après une petite conversation préliminaire, je me hasardai à lui demander s'il n'avait pas éprouvé quelques regrets en abandonnant sa famille et en embrassant une profession aussi dangereuse. « Je n'éprouve, me dit-il, qu'un seul regret, et ce regret ne finira qu'avec ma vie. » En disant cela, il pressa ses poings fermés contre sa poitrine, laissa échapper un profond soupir entre ses dents serrées, et il ajouta avec une grande émotion. « J'ai quelque chose là-dedans qui me brûle, comme un fer chaud qui dévore mon cœur. » Je pourrais vous dire une histoire épouvantable, mais pas à présent. Plus tard, je vous la dirai. » Il reprit sa première position. Sa tête retomba entre ses mains. Il murmura d'une voix étouffée quelques paroles entrecoupées qui me parurent être des imprécations. Je vis qu'il n'était pas en état d'être troublé. Je le laissai à lui-même. En peu de temps, l'épuisement de ses sensations et probablement la fatigue qu'il avait éprouvée dans cette expédition produisirent un assoupissement sensible. Il combattit contre le sommeil pendant quelque temps, mais la chaleur brûlante du soleil du midi rendit ses efforts inutiles. Il s'étendit sur l'herbe et s'endormit. J'aperçus aussitôt qu'il m'était possible de fuir. Mon gardien était étendu devant moi. Sa vie était entre mes mains. Ses membres vigoureux, amollis par le sommeil, sa poitrine ouverte au poignard, sa carabine échappée à sa main nerveuse et tombée à ses côtés, son stylet presque hors de la poche où il le mettait ordinairement. Deux de ses camarades étaient en vue. Encore était-il à une distance considérable. Postés sur le sommet de la montagne, ils nous tournaient le dos et leur attention était dirigée sur la plaine qui s'étendait à leurs pieds. À travers un bouquet d'arbres qui était devant moi, et en bas de cette colline un peu raide, j'apercevais le village de Roca Priori. Prendre la carabine du brigand endormi, saisir son poignard et le lui plonger dans le sein eût été l'effet d'un moment. Il serait mort sans bruit. Je me serais enfoncé dans la forêt et je serais descendu à Roca Priori avant que l'on ne puisse s'apercevoir de ma fuite. En cas d'alarme, je pouvais tirer un bon parti des deux voleurs et je pouvais m'échapper hors de la portée de leurs coups de fusil. Je trouvais à la fois l'occasion de m'échapper et de me venger. Elle était périlleuse, il est vrai, mais faite pour tenter vivement. Si ma situation avait été plus critique, je n'y aurais pas résisté. Je réfléchis un moment. Si l'entreprise réussissait, elle devait être suivie du sacrifice des deux paysans qui avaient été pris avec moi, qui dormaient profondément et ne pouvaient être réveillés à temps pour s'échapper. Le laboureur qui était allé chercher la rançon aurait probablement aussi été la victime de la rage des voleurs, sans sauver pour cela l'argent qu'il apportait. Et puis, la conduite du chef à mon égard me faisait présager une prompte délivrance. Ces réflexions l'emportèrent sur la première impulsion, et je calmai les pensées violentes qui s'étaient éveillées dans mon sein. Je repris mon album et je m'amusai à esquisser la vue magnifique qui s'étendait devant moi. Il était alors à peu près midi, et tout ce qui m'environnait semblait éprouver le même assoupissement que le bandit qui dormait à côté de moi. Le calme brûlant qui régnait sur ces montagnes, le vaste paysage qui s'étendait au bas, contrastant avec les villes qu'on découvrait sur un plan plus éloigné et parsemé de différentes maisons, indice parlant de la présence de la vie et des lois sociales, ce silence, enfin, m'affectait profondément. La vallée elle-même, qui s'étendait sur les montagnes, avait un air singulier de solitude. Quelques sons lointains interrompaient à midi le silence de cette scène. C'était le sifflement d'un muletier, guidant sa mule paresseuse le long du sentier qui serpente au milieu de la vallée. C'était le son languissant de la flûte de roseau du berger assis sur le penchant de la montagne, ou bien la clochette d'un âne marchant à pas comptés, suivi d'un moine aux pieds nus à la tête découverte, portant des provisions à son couvent. J'esquissais depuis quelque temps, au milieu de mes compagnons endormis, quand à la fin, je vis approcher le capitaine suivi d'un paysan qui conduisait une mule chargée d'un sac bien rempli. Je craignis d'abord que ce ne fût quelque nouvelle proie tombée entre les mains des voleurs. Mais l'air joyeux du paysan me tira bientôt de mes inquiétudes, et j'appris avec plaisir qu'il s'agissait du repas si désiré. Les brigands accoururent aussitôt des trois côtés de la montagne, guidés par un odorat aussi fin que celui du vautour. Chacun s'empressa de décharger la mule et de vider le sac de son contenu. Le premier personnage qui fit son entrée fut un énorme jambon dont la couleur et l'embonpoint auraient inspiré les pinceaux de tenier. Il était suivi d'un vaste fromage, d'un sac de châtaigne bouillie, d'un petit baril de vin et d'une bonne provision de pain de ménage. Tout cela fut arrangé sur le gazon avec un certain air de symétrie, et le capitaine, me présentant son couteau, me pria de me servir moi-même. Nous nous assîmes à la manière turque autour du repas champêtre, et on entendit pendant un instant une sourde harmonie de mâchoire causée par les glou-glou du baril de vin qui s'embouchait à la ronde. Mon long jeûne, l'air vif de la montagne et l'exercice qu'on m'avait fait prendre, m'avaient donné un appétit dévorant. Jamais repas ne me parut meilleur ni plus pittoresque. De temps à autre, on voyait un homme de la troupe jeter un coup d'œil sur la plaine. Aucun ennemi n'était à portée et rien ne troubla le festin. Le paysan reçut près de 3 fois la valeur de ses provisions et redescendit la montagne, grandement satisfait de sa vente. Je me sentis renforcé par le bon repas que je venais de prendre et... quoique la blessure que j'avais reçue la veille me fatiguât, je ne pus m'empêcher de me trouver extrêmement intéressé par les scènes singulières continuellement offertes à mes yeux. Tout avait un aspect pittoresque au milieu de ces êtres sauvages. Leurs repères, leurs bivouacs, leurs sentinelles, leur nonchalant repos sur le sommet de la montagne, leurs grossiers repas sur le gazon ou au milieu des rochers et des arbres, tout présentait une étude pour un peintre. Le soir approchait et je sentis naître en moi-même le plus grand enthousiasme. Le soleil couchant, descendant au-delà de la vaste campagne, jetait ses rayons brillants sur les sommets ombragés des Abruzzes. D'autres sommets, plus élevés encore et couronnés de neige, brillaient au loin, et leur éclat, contrastant avec les noires forêts qui couvraient les montagnes environnantes, produisait une teinte pourprée et violette. L'immense solitude qui s'étendait au loin, les montagnes sauvages entrecoupées de rochers et de précipices, entremêlés eux-mêmes de grands chênes et de châtaigniers, ces groupes de bandits couchés devant moi me rappelaient les peintures sauvages de Salvator Rosa. Pour passer le temps, le capitaine proposa à ses camarades d'étaler devant moi leurs joyaux et leurs camées, supposant que je devais être un grand connaisseur en état de les estimer. Il donna l'exemple, les autres le suivirent, et en un instant, je vis le gazon étincelant de bijoux et de pierres précieuses capables de faire éprouver la plus grande jouissance à un antiquaire ou à une jolie femme. Au milieu de tout cela étaient des bagues antiques et des camées de grande valeur, sans doute la dépouille de voyageurs de distinction. J'appris qu'ils étaient dans l'habitude de vendre leur butin dans les villes frontières. Mais, comme elles sont en général pauvres, peu peuplées et plus fréquentées par les voyageurs, qu'elles ne présentent aucun cours à les articles d'une telle valeur, simples objets de goût et de luxe, je les assurais qu'ils seraient certains d'en obtenir de grands prix de la part des riches étrangers dont Rome était inondée. L'impression que ces paroles firent sur leurs esprits avides fut très remarquable. L'un d'eux, un jeune homme, et l'un des moins connus de la troupe, demanda au capitaine de partir le lendemain déguisé pour Rome, promettant, foi de bandit, serment sacré chez eux, de se retrouver sous deux jours à l'endroit que son chef lui assignerait. Le consentement du capitaine donna lieu à une scène curieuse. Les voleurs l'entourèrent avec empressement, lui confiant ceux de leurs bijoux qu'ils voulaient vendre, et lui disant quel prix il en devait demander. Il y eut alors une grande circulation de colifichets au milieu d'eux. Et je vis ma montre, avec sa chaîne et ses cachets précieux, achetée par le jeune négociant bandit pour $60 au misérable qui me l'avait prise. Je ressentis alors une sorte d'espoir que, si elle revenait à Rome, je pourrais de manière ou d'autre en redevenir possesseur. Pendant ce temps, le jour baissait, et aucun message ne revenait de Tusculum. L'idée de passer une autre nuit dans les bois était très décourageante, car je commençais à avoir assez de tout ce que j'avais vu de la vie des voleurs. Le capitaine ordonna à ses hommes de le suivre afin de les conduire à leur poste, ajoutant que si le messager ne revenait pas avant la nuit, il irait s'établir dans un autre endroit. Je fus une seconde fois laissé avec le jeune bandit qui m'avait déjà gardé. Il avait le même air sombre, l'œil hagard, et de temps en temps un sourire amèrement sardonique contractait ses lèvres. J'étais déterminé à approfondir ce cœur ulcéré, et je lui rappelai l'espèce de promesse qu'il m'avait faite de me dire la cause de ses souffrances. Il me sembla que les esprits agités se sentent heureux de trouver une occasion de se décharger un instant du fardeau qui les accable et de trouver un confident frais et attentif auquel ils puissent se communiquer. J'avais à peine fait ma demande qu'il s'assit auprès de moi et me raconta son histoire autant qu'il m'en souvienne dans les termes suivants.